Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce lieu, et pour ceux qui ont du mal à prier dans la présence de Dieu, j'aimerais dire ceci. La scène a lieu, je crois, au Nigeria. La scène a lieu au Nigeria, au fin fond d'un village. Un vieux monsieur, un ancien, un sage. Il était connu et renommé pour sa sagesse et son intelligence. Et alors vient un petit garçon. Et vous savez que ce sont deux générations qui se combattent souvent. Parce que l'ancien sait tout. Et le jeune homme veut prouver à l'ancien que non, il ne sait rien. Alors il réfléchit pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Et il se passe une chose extraordinaire. Il décide alors de prendre un papillon dans ses mains. Il prend ce papillon dans ses mains, c'est simple. Il se présente devant l'ancien, tout agité. Ancien, ancien, ancien! Dis-moi, est-ce que ce papillon est en vie ou il est mort? L'ancien, tout choqué, un jeune garçon qui débarque chez lui en criant « Ancien, ancien, dis-moi, est-ce que ce papillon est en vie ou il est mort ?» Tout d'un coup, il dit « Mais calme-toi, jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas? Je te dis, est-ce que ce papillon est vivant ou il est mort ?» Alors l'ancien, rempli de sagesse, il dit « La décision est entre tes mains. Si tu... Parce que si je dis à cet enfant que il est vivant, discrètement, il va l'écraser. » Si je dis il est mort, il va ouvrir sa main et le papillon va s'envoler. Donc, je vais expliquer une chose. Une étude a révélé que quand vous êtes dans l'océan et que vous êtes en train de couler, vous revenez trois fois sur la surface. La première fois, vous vous débattez et vous sortez une fois la tête de l'eau. Ensuite, vous recoulez. Une deuxième fois et une troisième fois, après vous ne ressortez plus. Ce que je veux dire, c'est très sérieux. Je ne sais pas à quelle étape vous êtes, peut-être la première ou la deuxième. Mais ce soir, j'aimerais que quelqu'un lève la main et dise « Seigneur, tu peux saisir ma main, moi je ne peux plus. Moi je ne peux plus. » Parce que quand vous êtes au fin fond de l'océan, hein, il n'y a pas la main d'un être humain, c'est pas possible. Il faut une main divine. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, il faut une intervention divine. Il y a trois essais. Deux. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas la présence de Dieu, merci. Soyons les bienvenus dans la présence de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas la présence de Dieu, c'est une présence qui apporte un changement, un renouveau, une restauration. Que Dieu vous bénisse. Pendant quelques minutes, on va parler d'un sujet très important. Quand il y a le Saint-Esprit, je dois changer mon message. Il faut que je m'adapte à la présence du Saint-Esprit. Oh, quel challenge, Jéline. Saint-Esprit, je compte sur toi ce soir. Pour éviter. Merci Seigneur. Bertine, tu peux lire.
Waouh.
Merci Seigneur. Genèse chapitre 21, verset 14. Pour ceux qui n'ont pas de Bible. Si tu peux me passer la tienne, s'il te plaît. Genèse 21, à partir du verset 14. Vous pouvez suivre ensemble. Qui d'autre encore? Genèse 21, à partir du verset 14.
Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau. Il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'écoula. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir avec Agar, à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. »
Amen.
Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon.
Amen, que Dieu te bénisse. Amen. Pendant quelques minutes, j'aimerais parler sur le thème, sur ce sujet, la déception ou les déceptions. Je demande au Saint-Esprit de mettre les mots qu'il faut parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Et je bénis la présence de Dieu qui est dans ce lieu. Je m'attends que à ce soir, en fait, à une chose extraordinaire, à des miracles. Mais le 11 septembre, vous vous en souvenez, ce qui s'est passé aux États-Unis avec les tours jumelles. Et quelques temps après, on a posé la question à une fille. On lui a demandé, et Dieu dans tout ça? C'était les journalistes qui lui ont posé la question, et Dieu dans tout ça? Elle n'a pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Elle a dit, il était sûrement attristé et blessé dans son cœur. Mais depuis très longtemps, les Américains rejettent Dieu de leur école. Ils rejettent Dieu de le gouvernement, ils rejettent Dieu de leur vie, et comme un gentleman, Dieu s'en est parti. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est très simple. Des fois, à des personnes, on propose une solution. Et comme j'ai dit, cet enfant, l'ancien a dit à l'enfant, tout est entre tes mains. Tu as la solution, la vie et la mort de ce papillon. Mais c'est à toi de prendre une décision. Donc c'est pour ça qu'il a répondu, la décision est entre tes mains. On peut rejeter Dieu, mais par son grand amour, il reviendra souvent. Mais il viendra un temps, il ne pourra plus revenir. Et vivre loin de Dieu, je ne vous le conseille pas. Dans ce message, je vais faire quelques rétros de mon passé, des histoires que je ne vous ai jamais dites. Mais je prie Dieu que vous preniez conscience en ressortant d'ici. La réalité de Dieu. L'histoire qu'on vient de lire parle d'Abraham, de sa famille, d'Agar et de la femme d'Abraham. Abraham, très rapidement, Abraham, une personne très importante. Les théologiens, les gens très connus de la Bible disent d'Abraham le père de la foi. Il parlait avec Dieu. Dieu lui a donné une vision. Une fois, il a dit, sors de ton lieu et regarde les étoiles. Si tu arrives à compter les étoiles, alors ta postérité sera comptée. Il avait un entretien, il avait une vie intime avec Dieu. C'était un vrai chrétien, un bon serviteur, fidèle et intègre envers Dieu. Mais il m'a déçu dans ce verset. Et bien souvent, vous avez été déçu aussi. Et les plus grandes déceptions viennent des personnes très importantes et très chères à nos yeux. Ceux en qui vous avez mis beaucoup d'estime. La chose est très simple à dire, mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? De bon matin, il a mis une femme dehors. Non, Saint-Esprit, aide-moi à le redire. De bon matin. De bon matin, une femme qu'il a connue sexuellement, avec un enfant. Essayez de vous mettre à la place d'Agar. Elle est égyptienne, étrangère. Elle vit dans la famille d'Abraham où elle apprend les coutumes, les habitudes, où elle découvre le Dieu que servait Abraham. Elle voyait en Abraham sa fidélité, son engagement. Comment il persévérait alors qu'il n'avait pas d'enfant? Comment il s'attachait à son Dieu? Peu importe les circonstances, peu importe l'âge qu'il avait, elle voyait tout ça. Elle était en pleine admiration d'Abraham. Elle regardait cet homme comme un homme grand et fidèle et bon. Alors vient quelque temps, il l'a connu sexuellement, il lui fait un enfant et de bon matin, il le met dehors. Une femme, un enfant mis dehors de bon matin. Je ne sais pas à quelle déception vous avez eue. Mais je ne pense pas que quand la Bible dit de bon matin, c'est vraiment très tôt. C'est alors que Jésus priait généralement. Avant même que le soleil ne soit levé. Elle allait partir où? Elle est venue dans un pays, avec un peuple, qui l'a pris comme esclave, comme servante. Elle va aller où? J'ai été déçu par une personne en qui j'ai mis beaucoup d'attachement et d'affection. Alors que je sortais à peine de prison, quelques mois après, et que je faisais de mon mieux pour m'en sortir mentalement, physiquement et aussi socialement. C'est-à-dire, parce que ton CV est gâché, voyez-vous? Ton CV est foutu. Trouver un travail, c'est pas facile. Non seulement CV est foutu, mais la mentalité devait changer. Dans la prison, je ne vous conseille pas. Je fais 2 mètres, l'espace est restreint. 1 pas, 2 pas, 3 pas, c'est fini. me souviens, le premier jour, je ne sais pas ce qu'ils avaient contre moi, le plateau, ils me l'ont envoyé sous les barreaux. Et j'ai regardé déjà l'état de mon lieu, c'était très sale. Ça a pris toute la poussière. Mais vous avez faim, vous n'avez pas mangé depuis très longtemps, vous avez faim. En temps normal, les parents chez nous, on met une bonne table, on présente une bonne table qui motive la personne à manger. Mais là, il a pris son plateau et ça a pris toute la poussière. J'ai mangé parce que j'avais faim. Et j'ai regardé vers le ciel, enfin vers le plafond plus, et je me posais toutes ces questions. Les pensées de suicide, tu ne peux pas même te suicider, tu ne sais pas quelle solution prendre. Avaler ta langue, prendre, t'as rien. Donc tu mets ça de côté, tu oublies. Tu cherches encore d'autres solutions, bah alors tu te dis mais... Et puis quelques temps après, voilà qu'à Nanterre, ils appellent, ils disent « Manque de preuves, on va laisser cet enfant. » Manque de preuves. Comme je l'ai dit la dernière fois, je sors alors, je me dis « Je prends... » Il y a que deux chemins. Mon père n'était pas encore arrivé me chercher. Et il était un peu en retard de 5 minutes. Et je me suis dit « Gauche, je me suicide. Droite, je fugue. Je cours le plus loin possible. Je veux juste courir. Courir et ne pas... » Et je me suis mis à courir, je ne voulais plus m'arrêter. Mais au rond-point, j'ai entendu mon père a klaxonné sa voiture. Et il me dit, mais Davin, tu vas où? Je lui dis dans mon cœur, je lui dis, mais il ose me poser cette question, c'est toi qui m'as emmené ici. C'est toi et ta femme, tu m'as emmené ici, tu as porté plainte contre moi. Tu te souviens pas? Je voulais lui dire, mais tu te souviens des mots que tu as dit, parce que le commissaire m'a récité les mots. Je ne veux pas vous dire de quoi j'étais accusé, parce que c'est honteux, très honteux. Surtout quand c'est pas vous qui l'avez commis. Je suis monté par principe, parce que chez nous, le respect est une chose très importante. Le respect qu'on accorde à nos parents, nous les Africains, nous les Noirs, hein, le respect qu'on accorde aux gens, aux parents surtout. Qu'ils aient raison ou pas, que tu aies tort, le respect est une chose très importante. Et je suis monté. Et dans la voiture, je me disais... Il allait peut-être parler, il allait peut-être dire quelque chose, mais il n'a rien dit, c'était silencieux. Je vous dis, mais je voulais crier, dis, mais dis quelque chose, que tu. Crie, dis, mais parle, je veux que tu parles seulement. Silence, jusqu'à l'arrivée. Et la mauvaise habitude de nous, les Africains, on n'a pas le côté affectif. Ils pensaient qu'en me ramenant à Carrefour et de me dire, choisis ce que tu veux, ça allait me faire oublier la prison. Va à Carrefour, prends ce que tu veux. Et. Non, on met ça de côté maintenant. Il fallait s'adapter, trouver du travail, changer de mentalité. Et quelques temps après, je vais à l'église, je commence à côtoyer une église, je commence à rencontrer quelques chrétiens. Je finis la vie de rue, finis pas trop d'instructions, même pas de diplôme, mais on rencontre des personnes qui vous font évoluer. Le basket, oui, je l'avais en moi, c'est une chose que j'aimais. Et quelques temps après, un homme important que vous avez estimé, qui vous a même aidé à avoir vos papiers, une certaine identité. Et il te dit, moi je veux te ramener aux États-Unis. Tu as du talent. Moi je veux te ramener aux États-Unis. Tu es grand, tu es un bon basketteur. Il ne m'a pas vu, il me dit ça. Et Dieu me dit de te ramener là-bas. En me donnant la date, 26. C'était le 26 mai, je m'en souviens bien. J'emprunte de l'argent un peu partout. Tu empruntes, tu prends ce que tu peux. Tu t'endettes surtout. Mais bon, je ne pensais pas m'endetter puisque je me dis je vais aux États-Unis et vu mon niveau, c'est sûr que je serais drafté. Même pas, ou il y aurait peut-être une université qui m'aurait pris. Eux là-bas, ils ont un principe simple. Tant que tu fais 2 mètres, ils te forment à un poste. Mais j'avais déjà beaucoup de bases et j'étais bien formé à Toulouse. Je connaissais déjà mon futur métier, le basketteur. Et il m'a dit le 26. Voyez-vous, le 26, je ne suis jamais parti. Alors posez-moi la question, l'argent que j'ai dû prendre à la banque, à la famille, aux oncles, comment j'allais le rendre? Le type vient à peine de sortir de prison, il fait de son mieux pour s'adapter. Ma première déception. Ça m'a pris un an de dépression. Et alors Agar se retrouve seul de bon matin. Et la Bible dit, elle s'est égarée dans le désert de Beersheba. Ben vous, quand tu ne sais pas où, elle s'est égarée, conduit n'importe où, mais elle allait quelque part. Mais même quand tu t'égares, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu te conduit toujours vers lui. Voyez-vous? Mm-hmm. titubait, elle pleurait, elle marchait comme elle pouvait, mais elle se rendait dans la volonté de Dieu discrètement sans le savoir. Parce qu'on est limité en fait, on est limité, on ne voit pas ce que Dieu veut faire. Et beaucoup de gens me comprennent pas en fait, beaucoup de jeunes me comprennent, ils disent « tu es bizarre, tu aimes la solitude, tu aimes être dans le noir ». Non, tu ne sais pas ce que ça m'a coûté de venir à Dieu, tu ne sais pas comment j'ai pu y arriver. Ça t'a pas coûté le décès de tes parents, ça t'a pas coûté la prison, ça t'a pas coûté certaines choses, toi. Donc, je ne peux pas négliger ma vie. Je n'ai pas le temps de m'amuser comme toi, je n'ai pas le temps de rigoler sur certaines choses. Si toi, tu veux blaguer sur la vie, blague sur la vie, amuse-toi du mieux que tu peux. Mais attends, t'es confortablement, t'as tes études, t'as une bourse, t'as tes parents. Oh, attends, un matin, si on t'annonce une certaine nouvelle, est-ce que tu vas l'accepter? Des fois, on aime trop juger, mais est-ce qu'on pense un peu pourquoi la personne est dans cet état? Est-ce que vous pensez des fois? Non, non, on pense qu'à soi-même, on se dit oui, il fait pas ceci, il vient pas là, il fait pas ça. Mais est-ce que tu te dis pourquoi? Hein? Supporter une personne qui t'a fait des promesses et que tu n'as pas tenu, que tu t'es trouvé endetté jusqu'à maintenant? Et tu me dis pourquoi? Pourquoi je viens pas? Mais réveillez-vous! Ne négligez personne! Chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Il vient pas, mais ça veut pas dire qu'il a péché. Ça veut pas dire qu'il s'est éloigné de Dieu. Tu ne comprends pas. Je me souviens une jeune fille une fois. Sa mère a prié pendant tant d'années, elle priait depuis longtemps sa maman pour que sa fille ne vienne ne serait-ce qu'une fois à l'église. Et parce qu'elle avait pas, elle avait que des tenues sexy. Vous voulez qu'elle fasse comment? Elle est venue la première fois dans une église, c'est les seules tenues qu'elle a. Arrivée là-bas, le protocole lui dit, mais c'est pas comme ça qu'on s'habille. Mais elle n'est plus jamais revenue. Mais tu sais un peu ce que ma mère a dû faire pour que je vienne ne serait-ce qu'une fois à une réunion? Hein? Elle a prié des années. C'est Noël, je veux lui faire plaisir, c'est Noël, non? C'est sexy, on rentre pas comme ça. Mais attends, mais le temps change. Non.
Agar se retrouve dans le désert de Beersheba avec son enfant. Elle s'égare dans le désert de Beersheba. Et puis, elle dit, je vais poser mon enfant dans un lieu. Elle précise pour ne pas le voir mourir. Et ça m'a rappelé une scène. Parce qu'en fait, Agar se comporte en fait comme ma maman qui m'a mis au monde. Quand je suis arrivé en France, j'avais l'âge de 2 ans, et je ne connaissais pas les insultes, les gros mots. J'ai appris en fait très tôt à la maternelle, vous savez. C'est bizarre la France, mais j'ai appris ça là-bas. Maintenant, je vais quand même le dire pour attirer votre attention. J'avais appris le mot salope. Mettez ça dans un coin de vos têtes. Et maintenant, je suis rentré à la maison avec une blessure. Et je l'ai encore, enfin. Et maintenant, il s'est passé une chose bizarre. J'avais peur de l'alcool à 90%. Ça pique, mais en tant qu'un petit garçon. Et ma maman a voulu me nettoyer. Et j'avais tellement peur, j'ai fait, ne me touche pas. Je me suis mis à crier partout. Elle m'a fait, c'est pour ton bien. Ça va s'affecter, ça va te faire encore plus mal. J'ai fait, non, elle m'a pris de force. J'ai fait, non, lâche-moi, sale salope. À ma maman. Elle a pris le coton, elle l'a laissé sur la table. Elle s'est retournée, elle a dit, Davin, c'est à moi que tu dis ça. Moi, moi qui t'ai donné la vie, moi. Ça fait rien. Elle a dit, ça fait rien, elle est repartie. Mais quand je suis resté quelques temps après, parce que ça m'avait fait mal quand même. J'étais attristé, ce que je lui ai dit. Même si je ne comprenais pas vraiment la valeur du mot, c'est un mot que j'entendais. Alors j'ai pris le coton, il avait chassé déjà, il faisait plus mal. J'ai fait, maman, regarde. Regarde. Elle a fait un sourire. Mais ça ne l'a pas empêché, en fait, de me donner à manger le soir. Ça ne l'a pas empêché le matin de se lever très tôt, de m'habiller, de me laver pour m'emmener à l'école. Ça n'a jamais empêché de faire ça. Mais ce n'est pas cette scène la plus qui m'a beaucoup marqué, en fait, quand j'étais jeune. Et quand j'étais très petit. C'était, en fait, une scène plus qui m'a plus attristé. Mon père était très violent et je bénis Dieu parce que je n'ai pas hérité de son caractère. Il était très, très violent et il battait ma mère. Ce que je reproche à ma mère, c'est qu'en fait, elle aimait vivre dans une mentalité « Je suis une femme, je suis fait pour faire le ménage, et c'est tout. Mon mari vient, il mange, je prends soin de mes enfants, et je prends des coups, c'est tout. » Elle vivait dans cette mentalité-là. C'était normal, c'était ça, la vie pour elle, c'était ça. Et j'avais que 7 ans, mais je comprenais déjà son état, sa façon de penser. Et un soir, mon père est rentré du travail, et à savoir qu'il s'était disputé la nuit, elle dit, mais mon papa, il dit, qui m'a téléphoné? Elle n'a pas répondu. Oh. Ma grande soeur et moi, on a dit, mais maman, réponds, parce qu'on connaît Mon père est très violent, donc on dit, maman, réponds, s'il te plaît. Même s'il n'y a personne, dis seulement personne. Alors ma soeur dit, personne n'a téléphoné. Mais dit, mais toi, tu n'étais pas là, tu étais à l'école. Mais non, personne, on a dit tout ça. Il a dit, je reprends encore, qui a téléphoné, qui m'a cherché? Elle n'a pas dit un mot. Je l'ai bousculé, maman, dis quelque chose, parce que... Et elle n'a toujours rien dit. Elle a dit, pour la dernière fois, qui m'a téléphoné? Elle n'a pas répondu. Je déteste mon papa pour une chose, c'était mon plat préféré. Le riz et les haricots avec de la morue chez nous. Il a pris la table, il a retourné, il a ramené ma mère à la cuisine. Il a fermé la porte. Les coups étaient si forts, les bruits étaient très très forts, et il est parti en fait comme un voleur avec du sang sur la main. J'avais 7 ans, je suis rentré dans la cuisine. Ma sœur était partie dans la chambre en train de crier, ça m'énervait encore plus parce que je ne supporte pas de l'entendre pleurer. Et quand elle pleure, je la tape encore pour dire « mais tais-toi ». Mais elle continue encore, c'est normal parce que je la tape. Et ce que j'ai vu, ma mère était inconsciente dans une mare de sang. Une mare de sang. Je me suis posé la question, mais avec quoi il a tapé? J'ai regardé autour de moi, j'ai vu que les couteaux étaient rangés. Avec une telle violence, c'était avec ses mains. Et les voisins étaient allés chercher la police. Mais en attendant qu'il arrive en tant qu'un petit garçon, je me souviens, je suis allé dans les toilettes, j'ai pris du papier toilette. Et pour monter un peu l'état, ma maman était très... J'ai essuyé. Et elle m'a dit, mais Davin, je mérite de rester comme ça. J'ai fait, non, pas du tout, tu mérites pas de rester comme ça. Elle me dit, mais je mérite, mais... Non, j'ai essuyé du mieux que je peux. Ils sont arrivés, les gens nous ont pris, nous ont emmenés chez les voisins. La police est arrivée, ils ont appris, ils ont convoqué mon papa. Elle s'est retrouvée à l'hôpital un bon moment. J'ai fait, mais quelle violence, une mare de sang, il y avait sa tête et tout ça, c'était rempli de sang. Comment on dit à une femme que tu l'aimes et tu lui fais ça? Quand tu dis tu aimes une personne, Abraham, qu'as-tu fait? Tu l'as connue? Tu l'as fait venir, elle n'a jamais demandé à venir? Tu l'as ramenée? Et de bon matin, tu la mets dehors? Mais, même si on n'a pas de cœur, même si... L'enfant, elle a dit que je ne vois pas pleurer mon enfant. Et elle s'est cachée. Elle s'est mise à pleurer. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pleures. Mais je crois qu'à Beersheba, Dieu se révèle comme le Dieu qui voit et qui entend. Voilà ce que veut dire Beersheba. Dieu voit et entend. Mais Dieu dit une chose extraordinaire. Il n'a pas dit, j'ai vu les pleurs de Agar. Il a dit, j'ai vu les pleurs de ton enfant. Ce que je veux dire par là, c'est que même si toi tu ne peux rien faire et que tu es à bout et que tu ne sais plus quoi faire, quelqu'un d'autre le fait pour toi. Dieu n'a pas regardé les pleurs de la personne concernée. Si, il voit les pleurs d'Agar aussi, puisqu'il voit tout. Mais ce qui a attiré son attention, c'est qu'à savoir, il y a une autre personne qui prie pour toi et qui intercède pour toi. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur et t'es précieux à ses yeux. Peut-être parce que toi tu te dis, mais je suis fait pour être comme ça. Comme ma maman, tu te dis, mais je suis fait pour vivre comme ça. Qu'on me batte, pleurer toute ma vie. Donc, la solution va venir d'où? Alors sache que si ce n'est pas quelqu'un de génération méga, c'est Jésus-Christ lui-même qui le fait. Hein? Parce que Beersheba, c'est ce que veut dire Beersheba. J'ai vu. Moi, Dieu. Donc il y a de l'expérience. Et tu vas t'en sortir, les jours seront meilleurs demain. Mais est-ce que toi, tu veux me faire confiance? Parce que la Bible dit, l'eau était épuisée. Voyez-vous, Dieu intervient quand vous ne pouvez plus rien faire, quand vous ne pouvez plus rien dire. Quand vous êtes à bout, vous dites, je n'ai personne. J'ai l'intention de vouloir faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. J'ai fait des études, mais rien ne réussit dans ma vie. Je n'arrive pas à être une personne importante. Je n'arrive pas à honorer mon père et ma mère. Ils m'ont donné la vie, ils m'ont permis de faire de bonnes études, mais je n'arrive pas. Ou peut-être pour d'autres, il t'a dit qu'il s'appelait, tu étais à Châtelet, il t'a dit qu'il s'appelait Malcolm Bryan. Il avait les yeux verts, il était métisse. Il t'a dit qu'il te kiffait et qu'il allait sortir avec toi. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, une fois qu'il t'a laissé avec cet enfant, il est parti. Et toi, tu avais déjà tes projets, t'as dit que j'allais l'appeler Malcolm Junior. Et je vais l'habiller en Nike, l'habiller stylé. Il va ressembler à son père. Mais non, quand l'enfant va grandir, dis-lui la vérité. Dis-lui que tu t'appelles peut-être Malcolm Junior, mais ton papa n'est plus là. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il est parti. Il t'avait fait des promesses, il t'avait fait des vœux. Apprenons à nous confier qu'en Dieu. Si vous n'avez pas la force, la capacité, je crois que Jésus-Christ le fait. Il l'a fait pour moi. Alors que quand j'étais dans cette prison, je ne voyais plus d'autre issue. Et il a mis des gens extraordinaires. Il a mis Yannick m'héberge. Yannick, moi je l'appelle souvent Yannick, j'appelle Yannick Papa Noël. Parce qu'il fait trop de choses pour moi. Il a mis des frères et des sœurs. J'ai appris à prêcher en regardant des jeunes prédicateurs comme Jelil, des hommes engagés. Il met toujours des gens extraordinaires pour te... Il dit, mais attends, tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas de diplôme. Ok, t'inquiète pas, c'est pas grave. Moi, Dieu, je fais tout avec perfection. C'est-à-dire, je mets à ton côté un ami que tu ne devras pas négliger parce qu'il va t'apprendre à prêcher. Et peut-être à jouer au piano aussi. Ah, tu crois que ta prof t'a dit que tu ne savais pas écrire. Ok, mais attends, mais aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre. Je ne pouvais pas faire une phrase sans avoir 10 fautes dans la même phrase. Je n'avais pas parlé sans mettre un wesh, un. Mais aujourd'hui, j'y arrive. Il prend soin au moindre détail. Mais ne négligez personne autour de vous. Chaque personne autour de vous est un canal pour vous sortir d'une situation. À vous de demander la sagesse au Saint-Esprit pour savoir quelle est cette personne. Et tant que vous ne savez pas, ne négligez personne. Et Beersheba est encore pour moi un lieu où Dieu m'a vidé d'une douleur que j'avais. Vous voyez, des fois, je ne sais pas si vous faites ça dans la vie, un effet yo-yo, vous évoluez, vous rabaissez. Vous évoluez, vous rabaissez. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas guéri de certaines choses et vous vous dites, en fait, je mets ça de côté. Avec le temps. Excuse-moi, je dis souvent, le temps est le plus grand des enseignants. Ok ? Mais le temps n'est pas le plus grand des médecins. Il enseigne, il vous apprend. Et une chose que vous négligez peut-être à 15 ans, vous l'attendrez peut-être à 40 ans et il reviendra. Et il sera trop tard. Vous aurez des enfants, vous aurez des responsabilités. Comment annoncer à ton mari que tu as connu l'inceste ? Comment annoncer à ton mari qu'on t'a violé ? Il sera trop tard. Comment annoncer qu'on tes parents t'ont mis dehors, que tu as dû faire te débrouiller dans la vie ? Non, non, il y a certaines choses qui doivent être guéries maintenant. J'aimerais vous faire que vous profitez, que nous profitons ensemble de la présence de Dieu. Peut-être toi, tu penses que Dieu se manifeste physiquement. Mais excuse-moi, la manifestation de Dieu, c'est les personnes qui sont autour de toi. Parce qu'ils ont été élus, choisis par Dieu, comme toi tu es choisi par Dieu, pour te faire entrer dans ta destinée. Il est esprit. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire à Beersheba dans... Qu'est-ce qu'il voulait dire à Beersheba, Agar ? Il voulait dire une chose simple. Agar, je comprends. Je te comprends, oui. Il t'a connu, hein. Mais sache que pour moi, c'est moi qui l'ai dit de te mettre dehors. Hey, comment ça, Dieu ? Toi qui l'as dit de me mettre dehors. Toi, le Dieu d'amour. Oui, mais attends, Agar, tu es égyptienne. Moi, je suis un Dieu d'amour. Les Juifs, je les ai déjà gagnés. Il me faut un canal de bénédiction en Égypte. Il me faut un point de contact. Quelqu'un qui va témoigner. Mais pour que tu témoignes, il te faut des épreuves. Il te faut une situation. Tu ne vas pas te présenter devant quelqu'un sans avoir un bagage. Tu pourras dire en Égypte, arrivé là-bas, voyez ce qui s'est passé. J'étais seul, abandonné, rejeté, dans un désert. Alors qu'on avait plus d'eau, on croyait qu'on allait mourir dans quelques instants. Tu auras un bagage. Les épreuves, les situations difficiles dans la vie sont juste un tremplin. Et un CV bien rempli spirituel. Voilà ce que je veux faire, un point de contact. Au Gabon, au Congo, aux États-Unis, peu importe, mais il me faut un point de contact. Je suis un Dieu d'amour. Tu veux que je m'arrête seulement aux Juifs ? Non. Je ferai, ton nom sera grand, tu seras grand, tu auras un impact, mais il faut que je voie plus grand. Moi, j'ai besoin, je suis esprit quand même, comprends-moi. Tu veux que je vienne en esprit, mais tout le monde, si je viens en chair, tout le monde va croire en moi. Je suis venu, de toute façon, même quand je suis venu une fois, personne n'a vraiment cru en moi. Au contraire, on m'a persécuté sur une croix. Ok, d'accord, ça fait rien. Je te donne donc la double force, la puissance même qu'avait cette personne qu'on appelle Jésus-Christ, pour t'aider encore à faire mieux. Mais même quand tu fais mieux, personne ne croit encore en moi. Ok ? Ça fait rien ? Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai besoin de toi quand même. Tu vas peut-être gagner une personne, deux personnes, trois personnes, mais moi j'en veux le maximum. J'en veux le maximum. Mais veux-tu être ce canal que je vais utiliser ? Veux-tu être cette source de bénédiction ? Veux-tu transformer les nations ? Veux-tu transformer ta famille, ton quotidien ? Veux-tu changer quelque chose ? Alors ce soir, je pose la question, qui veut être un point de contact ? Qui veut être un point de changement ? Et surtout, qui veut rencontrer ? Parce que, en fait, Beersheba, c'est un point de rendez-vous. Parce que, attends, Agar, écoute-moi un peu, Agar. Tu es égyptienne. Tu as connu le Dieu que prie Abraham. Mais est-ce que tu m'as déjà rencontré personnellement ? Moi, je veux te rencontrer à Beersheba. Je veux t'apprendre qui je suis. Je veux que tu me découvres. Je veux que tu apprennes mon côté affectif. Je veux que tu apprennes mon côté puissant. Tu serviras dans deux sens. Il faut que tu connaisses mon amour. Il faut que tu connaisses ma bonté. Il faut que tu connaisses toutes mes capacités, toute ma personne même pour pouvoir être efficace sur tous les terrains. Mm-hmm. Après, les gens diront peut-être, non, il a fait des études, il s'est adapté. Non, c'est la formation divine de Dieu. Donc, il ne faudra pas être orgueilleux. Et c'est possible. Donc, profitez de cette occasion. Profitons de cette occasion pour donner notre cœur et notre vie à Jésus. Nos têtes sont inclinées, nos yeux fermés. Je laisse Jalil continuer la réunion. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.